France Culture.
Stanislas Vazak, bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. La France assommée par une canicule historique, près de 2000 écoles fermées aujourd'hui et des logements transformés en bouilloires. Une proposition de loi vise à lutter contre le phénomène, explication dans un instant. Une huitième motion de censure contre François Bayrou, l'Assemblée examine en ce moment le texte socialiste. Le Premier ministre devrait y survivre car le RN n'envisage pas pour l'instant de renverser le gouvernement. Boualem Sansal, à nouveau condamné à 5 ans de prison en Algérie, l'écrivain franco-algérien doit désormais s'en remettre à une hypothétique grâce présidentielle pour espérer sortir rapidement de prison. Donald Trump visite aujourd'hui l'Alcatraz des Alligators, un nouveau centre pour immigrés clandestins installé au milieu des marécages en Floride. Un site inhumain, dénoncent les adversaires du président américain. La canicule précoce qui frappe la France atteint aujourd'hui son pic, 38 degrés à Paris vers 15h selon Météo France. 16 départements du centre en vigilance rouge, dont la région parisienne. Environ 1900 établissements scolaires sont restés fermés cet après-midi sur un total d'environ 43 000. Et se réfugier chez soi ne suffit pas toujours à échapper à la fournaise. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, l'ex-fondation Abbé Pierre, près de la moitié des Français vivent dans des logements bouilloires qui ne protège pas des fortes chaleurs. L'Assemblée doit examiner à la rentrée une proposition de loi transpartisane visant à adapter ces logements à la nouvelle donne climatique. Les explications de Catherine Pétillon.
L'an dernier, 44% des foyers ont déclaré avoir souffert de la chaleur dans leur logement. Ça, c'est le chiffre global. Tout le monde n'est pas exposé de la même manière. Les locataires, les habitants d'appartements, les plus jeunes, les personnes vivant dans les quartiers populaires sont plus exposés aux fortes chaleurs chez eux. Ces appartements bouilloires, ce sont des logements qui ne permettent pas au corps de se reposer, de travailler, de dormir, avec pour conséquence des effets sur la santé physique et mentale. De nombreux appartements sont très exposés au soleil et n'ont pas même de protection comme des volets, soit parce que les propriétaires ne les installent pas, soit parce qu'ils ne le peuvent pas en raison des règles d'architecture et de patrimoine. Surtout, la chaleur n'est pas toujours intégrée au projet de rénovation. Le problème, c'est que la précarité énergétique a été pensée autour de la problématique du froid. Manuel Domergue, le directeur des études de la Fondation pour le logement des défavorisés.
Quand vous êtes locataire, que votre logement est une bouilloire, vous n'avez pas beaucoup de moyens pour faire pression sur votre propriétaire pour qu'il fasse des travaux. Ça ne fait pas partie des règles de décence qui rendent un logement autorisé ou pas à la location. Et donc, de la même manière que les passoires énergétiques dans lesquelles il fait très froid deviennent peu à peu indécentes et donc dans lesquelles les travaux sont obligatoires, petit à petit, hein, on pense que ce serait indispensable pour que les propriétaires fassent des travaux de rénovation pour adapter les logements au confort d'été. Parfois, c'est pas des travaux qui sont très compliqués. Hein, s'il s'agit de d'installer des volets, un storban ou un brasseur d'air, un propriétaire peut le faire en quelques semaines. Ça coûte quelques centaines d'euros, peut-être quelques milliers au maximum, et c'est quand même tout à fait faisable.
Une proposition de loi transpartisane vise à modifier la loi en ce sens, à intégrer un seuil de performance chaleur minimal et aussi à créer une obligation d'afficher dans les annonces de vente ou de location l'indicateur de confort d'été.
Les fortes chaleurs frappent d'abord les plus fragiles, a écrit Emmanuel Macron sur le réseau X. Soyons attentifs à nos proches, à nos voisins, à nos collègues, poursuit le chef de l'État dans son message. À Besançon, un sans-abri d'une cinquantaine d'années a été retrouvé inconscient sur le parvis d'une église, peut-être victime de la canicule. Les secours ne sont pas parvenus à le ranimer. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée, François Bayrou affronte une huitième motion de censure. Le Parti socialiste veut renverser le Premier ministre, coupable à ses yeux d'avoir refusé un débat au Parlement sur la retraite à 64 ans. Toute la gauche devrait voter cette motion, mais il faudrait le renfort du Rassemblement national pour qu'elle soit adoptée. On retrouve à l'Assemblée Antoine Marette. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Antoine, les socialistes crient à la trahison après l'échec du conclave sur les retraites, mais le gouvernement devrait survivre à cette huitième motion de censure.
La gauche va voter pour la censure, mais cela ne va pas suffire à faire basculer les choses. Une fois de plus, les députés du Rassemblement national se retrouvent en position d'arbitre. Et si l'on en croit le porte-parole du RN, Philippe Ballard, ils ne vont pas voter la censure.
La gauche qui fait croire que parce que la motion de censure serait votée tout à l'heure, la réforme des retraites sera abrogée, c'est juste un énorme mensonge. Si la censure était adoptée, ce qui ne sera pas le cas, la réforme des retraites ne sera pas abrogée. Puis il y a quand même une question qu'on peut poser à la gauche. C'est pourquoi lorsque nous avons proposé une motion référendaire, ce qui aurait permis aux Français de s'exprimer sur cette réforme néfaste, ils n'ont pas voté. Pourquoi lors de notre niche parlementaire le 31 octobre, quand on a proposé de revenir à 62 ans, ils n'ont pas voté non plus. Enfin voilà, c'est une tartufferie de plus de la gauche qui ne fait que polluer les débats. débat au sein de l'hémicycle.
Le RN préfère attendre le budget avant une éventuelle censure. À gauche, donc, on se prépare à un vote symbolique ce soir pour la forme. Preuve en est la position de François Hollande qui votera le coup de semonce contre le gouvernement, selon sa propre expression, et ce, alors qu'il est défavorable à une censure. Il votera pour dès lors que le RN ne s'y associera pas et que la censure ne passera pas.
Antoine Marette, depuis le Palais Bourbon. Avant ce débat sur la motion de censure, les députés ont adopté à une très large majorité le projet de loi du gouvernement pour refonder Mayotte par 367 voix contre 109. Le texte porté par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, vise à accélérer le développement du département le plus pauvre de France, ravagé par le cyclone Chido à la mi-décembre. Oser l'IA, c'est le nom du plan lancé par le gouvernement pour promouvoir l'intelligence artificielle dans l'économie française. L'IA doit entrer dans le quotidien de nos entreprises, affirme la ministre en charge du numérique, Clara Chapaz. Le plan a été présenté aujourd'hui à Bercy. Il prévoit notamment la formation de 15 millions de salariés d'ici 2030. Le gouvernement, Annabelle Grelier, parle d'une enveloppe globale de 200 millions d'euros.
Pour accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle, il faut déjà que les chefs d'entreprise et les salariés soient convaincus de son importance. L'IA n'est pas un risque, c'est une chance si on l'adopte et un levier immédiat de productivité, affirme d'ailleurs le ministre de l'économie Éric Lombard. Le plan Oser l'IA prévoit donc la formation des dirigeants et salariés, soit 15 millions de Français d'ici 2030. Le gouvernement vise qu'à cette échéance, toutes les grandes entreprises et au moins 80% des petites et moyennes entreprises utilisent des solutions d'IA. Et souveraineté oblige, de préférence, des solutions françaises. Par exemple, le français Mistral AI et son chatbot Le Chat, plutôt que l'américain OpenAI et ChatGPT. Un catalogue répertoriant des solutions d'IA françaises et européennes sera d'ailleurs mis en ligne. Une plateforme baptisée l'Académie de l'IA, regroupant des formations et tutoriels disponibles, sera également bientôt lancée. Près d'une dizaine d'actions ont ainsi été annoncées, comme la création d'un fonds de garantie bancaire pour financer des projets, ou encore le financement à hauteur de 40% de diagnostics IA pour les PME et ETI. Des diagnostics qui leur permettra d'évaluer les outils dont elles ont besoin et les mettre en place. Côté financement, le gouvernement compte déployer sur 10 ans une enveloppe globale de 200 millions d'euros pour un plan qui doit mobiliser plusieurs ministères, le réseau de chambres de commerce et d'industrie, la BPI, la French Tech, la Direction Générale des Entreprises, mais aussi le MEDEF. Quant aux syndicats de salariés, ils n'ont pour le moment pas été sollicités.
Explication signée Annabelle Grelier. La justice algérienne s'acharne. Boualem Sansal est coupable d'atteinte à l'unité nationale. La cour d'appel d'Alger a confirmé aujourd'hui la peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'écrivain franco-algérien. Il lui est reproché d'avoir affirmé aux médias d'extrême droite frontière que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Boualem Sansal est âgé de 80 ans, souffrant d'un cancer. Il est détenu en Algérie depuis le 16 novembre. Il ne peut plus espérer qu'une grâce du président algérien Tebboune pour sortir rapidement de prison. Arnaud Benedetti est le fondateur de son comité de soutien.
On n'est pas fondamentalement surpris parce que, si vous voulez, les conditions dans lesquelles avait été mené le procès en appel laissaient quand même, malheureusement, subodorer que Boualem Sansal serait condamné. C'était une instruction qui avait été uniquement faite à charge en 10 minutes. Donc, c'est pas fondamentalement quelque chose qui, pour nous, est surprenant, même si ça nous indigne, parce que bien évidemment, aucun des chefs d'accusation qui pèsent sur notre ami Boualem Sansal ne résiste à tant soit peu à une analyse scrupuleuse des faits. Aujourd'hui, notre objectif, c'est tous les regards se portent sur le 5 juillet et une éventuelle grâce présidentielle. Dans les 5 à 6 jours qui viennent, autour de la célébration de la fête nationale, il y a quelque chose de décisif et d'essentiel qui se joue concernant le sort de Boualem Sansal. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est d'ailleurs notre exigence depuis le début, on demande une libération immédiate et j'insiste, sans condition. Parce que notre crainte, c'est que peut-être que Boualem sera gracié, mais que cette libération soit assortie d'une interdiction de sortie du territoire national. il est évident que nous demandons une liberté de mouvement totale, d'autant plus que l'on considère que s'il était empêché de pouvoir sortir de l'Algérie, sa sécurité ne serait pas forcément garantie.
Arnaud Benedetti répondait à Flore Caron. François Bayrou espère aussi une grâce pour Boualem Sansal. Selon le Premier ministre, il faut, je cite, que l'humanité triomphe dans une affaire qui est pour les Français insupportable. Fin de citation. 169 ONG occidentales appellent à mettre fin aux activités de la Fondation humanitaire de Gaza. La GHF est une structure soutenue par Israël et les États-Unis, mais ses distributions d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne ont tourné au carnage. Plus de 500 morts depuis la fin mai, selon les ONG. Le ministère de la Santé du Hamas parle de 550 victimes. L'armée israélienne conteste ce bilan, mais reconnaît avoir tiré sur des Palestiniens près des sites de distribution de la GHF. Elle affirme qu'ils avaient un comportement menacé. Les ONG signataires de l'appel refusent de travailler avec la Fondation Alice Moreno.
Aujourd'hui, les Palestiniens de Gaza font face à un choix impossible. Mourir de faim ou risquer d'être tués par balle en tentant désespérément d'aller chercher de la nourriture. C'est le cri d'alerte lancé aujourd'hui par ces 170 ONG. Parmi les signataires figurent des acteurs majeurs comme Médecins sans frontières ou Amnesty. Les ONG considèrent que le système de la Gaza Humanitarian Foundation, soutenu et financé par Israël et les États-Unis, est une machine à tuer, avec seulement 4 points de distribution dans toute la bande de Gaza qui oblige les civils à se rassembler, à saturer certains espaces, des foules alors exposées aux tirs israéliens. Les scènes de massacres se multiplient depuis un mois. À titre de comparaison, pendant le cessez-le-feu qui s'étendait de janvier à mars, les ONG encadraient 400 points de distribution répartis sur tout le territoire de Gaza et les incidents étaient extrêmement rares. Les ONG réclament donc la fin immédiate de ce système et un retour à une distribution encadrée par les Nations Unies.
Alice Moreno, correspondante au Proche-Orient à Washington. Donald Trump continue à croire à l'imminence d'un cessez-le-feu à Gaza dans le courant de la semaine prochaine, affirme le président américain qui doit recevoir à Washington le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lundi prochain 7 juillet. Le locataire de la Maison Blanche qui tenait ses propos avant son départ pour la Floride, il doit inaugurer tout à l'heure un nouveau centre de rétention pour immigrés clandestins, une structure installée au milieu des marécages, déjà surnommée l'Alcatraz des alligators. Les adversaires de la politique migratoire de Donald Trump dénoncent un site inhumain. Le président américain, lui, préfère ironiser sur ses critiques. Sébastien Paour nous appelle de Washington.
Et Trump ne se prive pas de plaisanter sur le sort des immigrés qui seront bientôt enfermés dans ce centre de rétention au milieu du parc national des Everglades. Il n'hésite pas à expliquer que le concept est que ceux qui tenteront de s'échapper seront attaqués par les alligators ou les serpents. Il leur donne même un conseil, ne courez pas en ligne droite, ça augmentera vos chances de 1%. Et quand un journaliste l'interroge sur son projet de 2018 de mettre des crocodiles dans le Rio Grande, à la frontière mexicaine pour empêcher les traversées au Texas. Est-ce un rêve qui se réalise? Voici ce qu'il répond. J'y ai réfléchi, je dois dire que c'était plutôt une blague, mais plus j'y pensais, plus ça me plaisait. En fait, c'était des crocodiles d'Afrique. C'est un peu exagéré, c'était vraiment une blague, mais beaucoup de gens ont aimé. Beaucoup de gens pensent qu'on devrait le faire pour de vrai. Les détracteurs du projet L'Alcatraz des alligators le jugent inhumain. Ils étaient rassemblés avec des pancartes près de l'ancien aérodrome à l'arrivée du président. La Maison Blanche assure que le site pourra accueillir jusqu'à 5000 sans-papiers pour un coût de fonctionnement estimé à 450 millions de dollars par an.
Sébastien Paour, correspondant aux États-Unis. En Europe, près de 20 000 migrants ont déjà traversé la Manche depuis le 1er janvier pour rejoindre illégalement le Royaume-Uni, un chiffre record selon le gouvernement britannique, en augmentation de 48% sur la même période de l'an dernier. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer a promis de lutter contre l'immigration clandestine, alors que le Parti populiste Reform UK est en tête des intentions de vote au Royaume-Uni. Une disparition ce soir, la mort de l'universitaire et romancière Florence Delay. Elle est décédée aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Florence Delay faisait partie des 5 femmes siégeant à l'Académie française après avoir été élue en décembre 2000. Un mot du temps demain avec cette canicule qui résiste. 16 départements toujours en vigilance rouge, dont Paris et la région parisienne. 67 autres départements sont en vigilance orange. Il fera encore très chaud demain matin, entre 18 et 22 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre ira de 25 à 38 degrés. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Anthony Thomasson.